deux grands axes de recherche peuvent caractériser en fait votre carrière professionnelle. Tout ce qui concerne bien évidemment la didactique, l'apprentissage du français, français langue maternelle, français langue seconde, français langue étrangère, et également tout ce qui concerne les sciences du langage, l'épistémologie et l'histoire de cette discipline. D'ailleurs, je crois que cette conférence, la conférence que vous allez donner aujourd'hui, reprend en fait ces deux grandes dimensions. Donc je vous laisse la parole.
Merci beaucoup. Ça va pour le micro? Vous m'entendez? Voilà, alors je vais essayer de développer dans le temps qui m'est imparti quelques éléments concernant les relations entre les sciences du langage et la didactique des langues. Et particulièrement, puisque c'est un congrès de didactique du français, les relations entre les sciences du langage et l'enseignement du français, en particulier comme langue étrangère. Alors je vais traiter un certain nombre de points qui sont des pistes pour la réflexion. Alors, évidemment, la didactique des langues entretient une relation privilégiée avec les sciences du langage, pour une raison évidente, c'est qu'il s'agit bien sûr de traiter des langues d'abord et du langage. Mais il faut essayer de penser, je dirais, la spécificité de cette relation. Du point de vue de la didactique, vous savez que pendant longtemps, la didactique des langues a été assimilée à ce qu'on a appelé la linguistique appliquée. Bon, alors c'est évidemment un schéma qui est simple, où on voit le terme effectivement appliqué faire le lien entre la linguistique et la didactique. Naturellement, cette linguistique appliquée, qui n'avait pas que des défauts, a été assez vertement critiqué à cause précisément du caractère un peu mécanique de l'applicationnisme. On lui a substitué une autre notion qui est plus fine peut-être et plus intéressante pour situer les relations entre les deux disciplines, c'est la notion de transposition didactique. C'est-à-dire au fond, on a pensé que le passage des théories savantes au terrain de l'enseignement et de l'apprentissage était au fond un passage complexe, que les processus devaient être examinés avec plus de finesse, et naturellement ça a donné lieu à des élaborations intéressantes, mais qui restent de toute façon, de mon point de vue, insuffisantes. Je veux dire que la transposition didactique a toujours le défaut d'être un modèle descendant, un modèle qui va des théories de toute façon vers les pratiques. Elle est absolument nécessaire, mais elle a un certain nombre de limites. Les limites tiennent au fait qu'en didactique des langues, et on n'a pas seulement à réfléchir sur des savoirs, mais on doit se préoccuper aussi des savoir-faire, des pratiques, et parfois, certains le disent aujourd'hui, des savoir-être. Donc évidemment, tout n'est pas réductible à la didactisation des théories. C'est pourquoi ce modèle est important, mais il est insuffisant. J'y ajouterai pour ma part un modèle que j'appelle plutôt didactique ascendante. C'est le mouvement inverse. Il s'agit au fond de partir de ce dont les enseignants ont besoin sur le terrain, de ce dont ils ont besoin pour faire la classe, pour construire des progressions, pour prévoir et pour organiser des activités, pour avoir la capacité de choisir des méthodes ou des manuels. Eh bien, si l'on part effectivement de ce terrain-là, on peut construire un questionnement didactique, et ce questionnement didactique peut être pertinent et permettre d'interroger les disciplines de référence, en particulier les linguistiques et les sciences du langage. L'idée est que, plutôt que de placer les enseignants face à des théories plus ou moins bien transposées, il faut les placer face à des problèmes et à des problématiques didactiques. Le rôle du didacticien est au fond, je le définirais ainsi, d'être un médiateur entre d'une part le terrain, la pédagogie, et d'autre part les théories de référence, dont évidemment les sciences du langage. Je dirais que de toute façon, il faut avoir ce double mouvement, aller des théories vers les pratiques, remonter des pratiques vers les théories, et que naturellement, ce double mouvement est intéressant pour les deux partenaires, aussi bien pour les sciences du langage que pour la didactique des langues. Il est évident que la didactique des langues a besoin des sciences et des théories du langage, parce que la didactique ne peut pas être simplement l'accomplissement de gestes professionnels, elle ne peut pas être simplement le respect de méthodologies qu'on aurait plus ou moins vidées de leur contenu théorique. Il est évident que la didactique des langues a besoin des sciences du langage, parce que les problèmes, au fond, dont elles s'occupent, ont déjà été traités d'une manière ou d'une autre. Ils héritent de toute une tradition, de toute une culture linguistique qu'il faut évidemment pouvoir repérer à l'intérieur des sciences, dites sciences ou des théories du langage. Il m'arrive parfois, je veux dire, avec sciences du langage, de faire des petits gestes pour mettre des petits guillemets, simplement parce que je ne suis pas jusqu'au bout convaincu de la scientificité absolue des sciences du langage, et que je préfère parfois dire les théories du langage, pour moi, plus de résonance. Mais enfin, dans le milieu institutionnel, la discipline est reçue ainsi, ça s'appelle sciences du langage. Alors, à l'évidence, donc, la didactique des langues a besoin, comme je l'ai dit, des sciences du langage. Mais j'ai envie de donner le mouvement inverse, c'est-à-dire que les sciences du langage ont besoin de la réflexion sur l'enseignement, sur l'apprentissage, et que je dirais même que cet effet en retour est important et parfois constitutif de la réflexion dans les théories du langage. Je donne un petit mot d'explication là-dessus. Au fond, ce sont souvent des préoccupations sociales ou des préoccupations scolaires qui ont été à l'origine des travaux savants dans un certain nombre de disciplines, particulièrement en grammaire. Je crois que les Grecs n'auraient pas inventé la grammaire si la question de la finalité pour l'enseignement et pour l'apprentissage ne serait pas posée. On pourrait dire la même chose pour ce qui concerne le développement des travaux savants en rhétorique, dans la mesure où les finalités sociales et pratiques de l'art des discours étaient évidentes. Je dirais que dans une époque plus récente, plus contemporaine, le développement de certaines recherches dans des domaines comme la lecture, par exemple, a directement profité des inquiétudes concernant les préoccupations sociales, concernant par exemple la montée de l'illettrisme dans les pays développés. Je dirais aussi que quelque chose qu'on voit bien, par exemple, dans l'enseignement du français langue étrangère, que la diversification des supports de travail, avoir d'autres textes, d'autres discours pour travailler avec les élèves, ça a stimulé à l'évidence le travail, la recherche sur les typologies textuelles et sur la linguistique des textes et des discours. Donc il ne faut pas que nous oublions cette dimension qui est très très perceptible, c'est-à-dire que les sciences du langage ne sont pas dans une étanchéité par rapport aux préoccupations qui sont celles des didacticiens des langues. Au contraire, les didacticiens et d'une manière générale le terrain de l'école fournit un certain nombre d'aliments aux travaux en linguistique. C'est vrai par exemple là pour ce qui concerne la didactique des langues, c'est vrai par exemple dans les travaux en linguistique de l'acquisition par exemple, pour lesquels il y a de plus en plus de corpus qui viennent effectivement de l'école. Mais c'est vrai aussi, par exemple, dans les recherches sur les interactions ou en sociolinguistique, où là aussi, de plus en plus, les éléments dont traitent les linguistes proviennent effectivement de données issues de l'enseignement et de l'apprentissage. Alors, voilà, si vous voulez, un peu cette espèce d'interrelation entre les préoccupations des sciences du langage et de la didactique des langues. Pour ce qui concerne l'état actuel de ces relations, je crois que il faut voir un petit peu pour se situer où nous en sommes dans la didactique des langues étrangères et en particulier pour ce que nous occupe ici dans la didactique du français comme langue étrangère. Je crois que l'époque semble marquée par une impression d'éclatement. d'éclatement des référents théoriques en linguistique, d'éclatement qu'on pourrait d'éclatement des entrées, une forme d'éclectisme. Il y a toujours dans l'histoire des méthodologies des langues des configurations, des matrices qui s'imposent à tel ou tel moment. Par exemple, aujourd'hui, ceux qui connaissent par exemple le cadre commun de référence du Conseil de l'Europe, voient que pour l'enseignement des langues, il y a une nouvelle perspective qui semble se dessiner et qui s'appelle la perspective actionnelle. Mais on ne voit pas, par exemple, jusqu'à maintenant, comment cette perspective actionnelle se démarque clairement des fondements théoriques de l'approche communicative, qui était jusqu'à maintenant l'approche régnante. Je rappelle d'ailleurs, pour situer cette question des relations avec la linguistique, quelques éléments de l'histoire récente de cette didactique du français langue étrangère au plan des changements de méthodologie. Quelles sont les avancées, quelles sont les difficultés. Vous savez bien justement que jusqu'aux années 1970, c'est une certaine conception structuraliste de la grammaire liée aux activités audiovisuelles qui a occupé le devant de la scène. Puis, l'approche communicative semble s'être caractérisée, pour aller vite, par quelques éléments, la prolifération des documents authentiques, la mort du manuel et le déclin de l'illusion méthodologique. La grammaire a reculé au profit de ce qu'on appelle la compétence de communication. Si la grammaire s'est maintenue dans l'approche communicative, elle s'est maintenue de manière différente, sous la forme d'une grammaire qu'on a appelée notionnelle, une grammaire davantage préoccupée des représentations sémantiques que des fonctionnements morphosyntaxiques. On sait bien aussi qu'au début des années 1980, la centration sur l'apprenant a déterminé certaines révisions dans les méthodologies. La notion de besoin langagier a guidé la délimitation des contenus à enseigner et a renversé la perspective transmissive. Le développement des travaux sur l'analyse des fautes, sur l'erreur, avec les dimensions contrastives, la question des interférences, la question de l'interlangue, ont complété cette centration vers l'apprenant qui a fait arriver la psycholinguistique sur le devant de la scène en didactique. Après la linguistique appliquée donc, les approches communicatives ont dominé, approches communicatives qui ont été guidées par des concepts pour l'essentiel empruntés aux théories énonciatives et pragmatiques en linguistique, avec au centre la notion d'acte de langage. Si l'on devait dire où nous en sommes aujourd'hui, je dirais qu'on assiste à un retour d'un certain nombre de choses. D'abord, à un retour de l'intérêt pour les activités métalinguistiques, qui me semble effectivement un retour important, j'y reviendrai. On assiste aussi à une forme de réhabilitation de l'écrit par rapport à l'oral, dans sa fonction de structuration, dans sa fonction de cognition, avec en particulier une attention au fonctionnement des actes de lecture en langue étrangère, sur lesquels nous disposons maintenant d'informations un peu plus sérieuses. On assiste aussi à une interaction plus marquée entre les problématiques de la langue maternelle et de la langue étrangère. Sur ce dernier point, d'ailleurs, on connaît le retour de Balancier. On a eu pendant longtemps dans les méthodologies une omniprésence de la langue maternelle. Vous le savez, c'était dans les méthodes grammaire-traduction. Puis, on a connu une phase d'exclusion de la langue étrangère, d'un mot maternel, pardon, dans la méthodologie directe. Aujourd'hui, on cherche les moyens de prendre en compte la langue maternelle dans l'apprentissage de la langue étrangère de multiples manières. On le cherche dans les problématiques qu'on appelle l'éveil au langage, awareness of language, on le cherche dans les dans les tentatives de didactique intégrée entre langue maternelle et langue étrangère, on le cherche aussi dans des travaux sur le plurilinguisme, avec comme horizon la compétence plurilingue. De plus en plus, on s'intéresse à cette question de l'influence que cette langue première exerce dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue étrangère, et cette langue première, évidemment, à travers laquelle passe l'acculturation au langage, à travers laquelle passe l'accès à la lecture-écriture, et à travers laquelle passe souvent la réflexion grammaticale. Alors voilà un certain nombre d'éléments entre linguistique et didactique qui me semblent être les intérêts de la période actuelle. Mais cet état des lieux ne doit pas masquer les difficultés qui persistent au sein de la didactique des langues, spécifiquement de la didactique du français langue étrangère, et qui tiennent largement à cette relation avec la linguistique. Je vais citer quelques-uns de ces chantiers en cours qui sont problématiques dans la relation entre les deux disciplines. La linguistique structurale, vous le savez, avait fait une percée très forte, bien sûr, sous la forme de ce qu'on a appelé la linguistique appliquée, tout à l'heure. Cette linguistique structurale a apporté de nombreux éléments de rationalisation, pour la grammaire en particulier, mais il y a un acquis de la linguistique structurale qui trouve beaucoup de mal à se concrétiser dans les manuels et dans les pratiques de classe, c'est la dichotomie entre, disons, l'oral et le scriptural. Je ne veux pas dire entre l'oral et le parler, entre l'ordre de l'écrit et l'ordre de l'oral. Ça reste une difficulté, on le voit bien dans des problèmes concrets de grammaire, dès lors qu'il s'agit de présenter certaines règles d'accord, on ne tient pas compte de cette dichotomie, dès lors qu'il s'agit de présenter aux élèves la morphologie verbale, on ne tient pas non plus compte de cette dichotomie. Tout le monde voit à peu près ce que je veux dire, pour se présenter par exemple des règles d'accord, sans tenir compte de la différence entre oral et scriptural, ça revient à continuer à émettre des règles du genre, le féminin des adjectifs se forme en ajoutant un E au masculin, règle qu'on trouve dans de très nombreuses grammaires et qui évidemment est absurde, puisqu'elle ne tient aucun compte de la différence entre l'oral et l'écrit. L'oral et le scriptural, on pourrait multiplier comme ça les exemples. Pour la morphologie verbale, c'est aussi la même chose. On peut tout à fait apprendre qu'il y a 6 formes en français quand les écoliers récitent « je chante, tu chantes, il chante, nous chantons, vous chantez, ils chantent ». Mais on sait par ailleurs que si on considère effectivement l'écrit, il y a 5 formes, et que si on considère l'oral, il y en a 3. Chante, chantons, chantez. C'est des connaissances de base. En linguistique structurale, c'est des trucs qu'on connaît depuis 50 ans, 70 ans, etc. Je me désole parfois de voir que dans de nombreux manuels, des méthodes, des pratiques de classe, ces éléments ne sont pas intégrés. Et je crois qu'il y a une réelle difficulté de ce point de vue-là. Vous voyez, là, je dirais, c'est un peu l'effet retard. Entre des élaborations théoriques qui sont finalement assez claires, qui sont devenues assez banales finalement pour les linguistes, et là on a une difficulté, je dirais c'est même une difficulté plus large, c'est-à-dire que finalement l'outillage grammatical traditionnel et même l'outillage grammatical structuraliste est insuffisant pour décrire tout un ensemble de phénomènes qui entre dans ce qu'on pourrait appeler le français parlé, pour le coup, bien que nous ayons de nombreuses recherches, effectivement, sur le français parlé. Il y a une difficulté par rapport à la didactisation, je veux dire, de ces travaux. Il y a un autre point, par exemple, qui est lié au précédent, qui n'est pas tout à fait le même, c'est que on a beaucoup de mal aussi à introduire dans les descriptions linguistiques celles qu'on fait pour l'enseignement, par exemple pour le français langue étrangère, je dirais une perspective variationniste. Je m'explique. La question de savoir quel français enseigner est une question toujours ouverte, à laquelle, je veux dire, on ne peut pas apporter de réponse spontanée si on ne décrit pas dans la dialectique entre système et variation quelles sont effectivement les pratiques effectives qui existent dans la langue française. Alors, c'est vrai qu'on a pu être aidé sur ces questions par un certain nombre de notions. Par exemple, le couple notionnel hérité de la grammaire générative de Chomsky, la grammaticalité et l'acceptabilité, réflexion intéressante pour que on puisse bien distinguer les problèmes de construction, des problèmes de sens et les interférences qui peuvent exister entre les deux. C'est vrai qu'on a été à un certain moment, enfin on a utilisé un thème déjà ancien, je veux dire celui des niveaux de langue, des pratiques de langue, mais il me semble que ces instruments restent encore insuffisants pour prendre en compte réellement cette question du traitement des variations, je veux dire à l'intérieur de la langue, et d'essayer de repenser un lien entre deux choses qui demeurent assez souvent séparées dans les méthodes, dans les manuels, dans les pratiques de classe. Les deux choses qui sont séparées, c'est que d'une part on dit il faut apprendre la langue avec sa fonction communicative, hein. On dit que l'objectif de l'apprentissage des langues, c'est la compétence de communication. Et puis d'un autre côté, on nous dit il faut étudier le système linguistique, la grammaire, effectivement, de la langue. Et là, il y a une coexistence qui est parfois très très problématique, parce que dans un certain nombre d'outils d'enseignement, on voit à la fois des leçons axées sur cette compétence de communication, et puis on voit à côté des descriptions tout à fait traditionnelles de points de grammaire qui n'ont pas de liaison explicite, ni même implicite avec ces problèmes de compétence de communication. Donc on est à quelque chose là pour essayer de nouer ensemble la description du système de la langue dans sa complexité avec l'objectif que nous assignons à cela, qui est assigné, je veux dire officiellement, qui est effectivement l'objectif de la compétence de communication. J'ajoute un troisième point qui me semble faire difficulté. Tous ces points, c'est des difficultés, me semble-t-il, donc, dans la didactique, mais qui à chaque fois posent des questions de linguistique, évidemment. Le troisième point, je veux dire, c'est le problème du lexique. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien que dans les méthodes et les pratiques de classe en français langue étrangère, l'enseignement du vocabulaire pose des problèmes considérables et qu'on ne sait pas exactement quelles sont les réponses didactiques qu'on est susceptible d'apporter. Cet enseignement du vocabulaire est écartelé entre plusieurs possibilités. Par exemple, entre l'apprentissage que je qualifierais incident, l'apprentissage incident des mots par la lecture de textes. D'ailleurs, on dit aux élèves quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, mais si vous lisez des textes, vous allez acquérir du vocabulaire. Et puis, les élèves répondent à bon droit, normalement, mais oui, mais pour lire des textes, il faut déjà avoir du vocabulaire. Alors, on est dans une espèce, effectivement, d'aporie, là, qui est bien difficile à surmonter. Ça veut dire que donc il y a quelque chose du point de vue, disons, de la didactique du vocabulaire qui est sûrement à construire. On n'a pas non plus renoncé, mais ça se discute aux listes de termes à apprendre par cœur. On pense aussi que la consultation des dictionnaires est un point important. Moi, je crois là aussi que du point de vue de ce qu'on connaît des recherches en linguistique, il y a des choses intéressantes. Par exemple, je crois qu'il est très important de sortir de l'isolement du mot et de penser la relation entre lexique et grammaire. Hein, c'est-à-dire le mot, sa construction, etc. Ce qu'on fait, par exemple, avec les verbes, un certain nombre de linguistes, chez nous à Paris, dans le laboratoire de Maurice Gross, appellent les verbes support, lexique, grammaire. Ça, c'est un point de recherche intéressant. Je dirais, sur un autre plan, il y en a un autre, ce que Robert Galisson appelle la lexiculture, c'est-à-dire les relations, évidemment, entre les mots et les contenus culturels qui sont véhiculés par les mots, toutes les problématiques de la connotation, etc. J'indique ça comme ligne et comme perspective effectivement de travail parce que la didactique du lexique et l'enseignement du vocabulaire sont des points sensibles, aussi bien du côté didactique que du côté linguistique. J'ajoute un quatrième point qui me semble aussi important, c'est pour la lecture et l'écriture. Alors évidemment, là aussi, on a mobilisé des travaux, en particulier pour le français langue étrangère, qui venaient de ce qu'on appelle la linguistique textuelle, de ce qu'on appelle l'analyse des discours. On l'a beaucoup fait dans les années 70, 75, etc. On parlait en français langue étrangère de l'approche globale des textes, dans un courant qui avait été inauguré par des collègues à moi de Paris 3, Sicurel. Bon, qui était effectivement une approche des textes qui permettait de saisir la signification globale, mais une approche qui est restée peu opératoire pour construire une véritable compétence de lecture. Parce que après cette approche globale, à essayer d'avoir une approche plus micro-structurelle. Bon, on a fini par s'intéresser de près, par exemple, aux travaux sur les anaphores nominales et pronominales, aux travaux sur les connecteurs, aux travaux sur les fonctionnements des temps verbaux, parce qu'il s'agissait simplement de ne plus avoir, une vue globale du texte, mais d'essayer de saisir tout de même les microstructures, les phénomènes de cohérence et de cohésion à l'intérieur des textes. De la même manière, les travaux sur ce qu'on appelle en linguistique la thématisation, les oppositions, thèmes, règles dans la construction des énoncés, qui sont d'ailleurs des travaux par certains aspects anciens, dans la mesure où ce sont des travaux qui s'inscrivent dans toute une tradition sur l'ordre des mots, comme débat fondamental, à l'intérieur des langues. Bon, mais ces travaux sur la thématisation ont permis d'approcher des phénomènes de progression textuelle, qui sont évidemment là aussi très importants pour la lecture, comme ils sont importants pour la production écrite. À ces travaux se sont ajoutés depuis quelques années d'autres travaux importants et utiles pour la didactique de l'écrit, et qui sont dans des orientations, au moins autant linguistiques qu'anthropologiques. C'est par exemple cette notion de littératie qui a été développée dans le monde anglo-saxon et qui est importante. Pourquoi ? Parce qu'elle englobe des recherches qui travaillent, sur par exemple la diversité des systèmes d'écriture. Et ici, c'est important, par exemple, au Japon, cette question de l'écriture, mais c'est important aussi pour le français langue étrangère à cause de la difficulté de l'orthographe française, évidemment. Qui apparaît peut-être ici très relativisé par rapport à la complexité, de l'acquisition des au moins deux systèmes d'écriture japonais. Mais qui pour beaucoup d'apprenants reste une difficulté, ce problème de l'orthographe en français. Alors il y a dans ce concept de littératie cette idée, qu'il faut étudier vraiment les systèmes d'écriture dans leur fonctionnement, parce que c'est pas seulement des questions linguistiques, mais que les systèmes d'écriture organisent dans une certaine manière les modes de pensée. Il y a un rapport entre les systèmes d'écriture et les phénomènes cognitifs. Et puis, dans cette notion de littératie aussi, il y a une étude des phénomènes généraux de ce que j'ai appelé tout à l'heure la scripturalité. C'est-à-dire l'idée que il faut faut s'intéresser à tous les types d'écrits et pas seulement aux textes. Hein, tous les types d'écrits tels qu'ils peuvent exister et à la fonction que remplissent les écrits dans la vie sociale. Il y a donc là, avec ce concept, quelque chose qui est important pour la didactique de la lecture et écriture, qui est important d'ailleurs, je dirais, pour les langues maternelles et qui est important aussi pour les langues étrangères. Alors, ce point, si vous voulez, disons, c'est une transition un peu toute trouvée pour aller vers la troisième et dernière partie de ce que je voudrais dire. De quoi s'agit-il et pourquoi c'est une bonne transition? Je crois que parce que ce qui est au centre, à savoir les relations entre les sciences du langage et la didactique des langues, bien sûr que c'est très important, hein, ces relations entre les savoirs que nous avons sur les langues et d'autre part l'enseignement et l'apprentissage. Oui, c'est important, mais je dirais que cet ensemble est lui-même contextualisé. C'est-à-dire que les choses ne se présentent pas identiquement suivant deux séries de paramètres, au moins, les cultures éducatives dans lesquelles nous nous trouvons et les cultures linguistiques dans lesquelles nous nous trouvons. Moi, je dis souvent que le triangle didactique tel qu'on a l'habitude de se le représenter, un enseignant, un apprenant et puis du savoir qui circule effectivement entre les deux, c'est bien, mais qu'évidemment il faut mettre autour de ce triangle didactique une dose très forte de contexte. Et moi je dirais que ce qui est important c'est les deux dimensions contextuelles que sont les cultures qui relèvent de l'éducation et les cultures qui relèvent effectivement de la langue. Alors, les cultures éducatives, qu'est-ce que je veux dire? Bien, à chaque fois qu'on parle de didactique, il faut toujours prendre en compte le fait que cette didactique s'exerce, et tous les actes d'enseignement et d'apprentissage s'exercent dans des institutions que... Il y a des pratiques et des politiques d'éducation et que ces pratiques et ces politiques sont elles-mêmes reliées à des philosophies de l'éducation, que tout cela varie historiquement et culturellement, que nous avons besoin de connaître effectivement ces variations, même si nous savons que nous devons à chaque fois poser les mêmes questions dans ces cultures éducatives différentes. Ces mêmes questions, c'est quelle est la nature des interactions entre les enseignants et les apprenants, quels sont les modèles d'enseignement qui sont dominants, quels sont les styles de gestion de classe, et on sait bien que dans ces cultures éducatives, il y a toujours au fond une tension entre soit on insiste effectivement sur ce qui est particulier, spécifique, soit on insiste sur ce qui apparaît effectivement général. Et universel. Et c'est vrai que on peut avoir d'un certain nombre de phénomènes des visions différentes. Je donne un exemple dans un travail qu'on avait fait là, un ouvrage qui s'appelle justement les cultures éducatives et linguistiques face à l'enseignement des langues. Un professeur avait fait un article sur ce qu'il avait appelé la réserve extrême-orientale, le caractère réservé effectivement dans la communication qui existe dans un certain nombre de cultures. Et toute la discussion tournait au fond autour de savoir d'abord si c'était vrai. Si cette réserve était un stéréotype culturel qui était comme ça véhiculé, ou si elle correspondait, je veux dire, à des types de fonctionnement qui étaient observables, je veux dire, empiriquement. Et en plus, la question c'était de se demander, est-ce que véritablement, par exemple, cette réserve, dans les termes de l'ethnographie de la communication, on pourrait dire... la protection de la face, comme dit Goffman, par exemple, le sociologue américain, est-ce que cette réserve, protection de la face, est-ce qu'au fond, c'est pas un phénomène un peu universel, un phénomène qui est constitutif de l'humain. Alors, à chaque fois qu'on discute effectivement sur ces problèmes de culture, et de, à l'intérieur en particulier de l'école, du monde éducatif, et plus largement de toute la société, mais il y a toujours cette tension, hein, entre une vision effectivement universaliste d'un certain nombre de phénomènes, et puis une vision plus nettement culturaliste. Alors, il faut tenir compte des cultures éducatives. Moi, je pense qu'il faut aussi tenir compte de ce que j'appelle les cultures linguistiques ou les cultures langagières. Pourquoi ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire que nous avons parlé, par exemple, de la linguistique, des sciences du langage. Au fond, en parlant de cela, nous parlons de savoirs savants qui existent dans des traditions de recherche. Mais nous savons bien que l'enseignant doit tenir compte pas seulement des savoirs savants sur le langage et sur les langues, il doit tenir compte de toute une série d'autres savoirs. Par exemple, il existe sur les langues des savoirs ordinaires, pourrait-on dire, des savoirs spontanés, je veux dire dans la société. Il existe des savoirs spécifiquement scolaires qui ont été constitués dans l'école. Et que tous ces éléments sont effectivement très importants. Il n'y a donc pas seulement les savoirs savants. Quand je dis par exemple les savoirs spontanés ou ordinaires, vous savez bien qu'il y a énormément de recherches qui se développent sur les représentations des langues. Et il est très très difficile de faire abstraction de la question des représentations des langues en présence quand on enseigne une langue étrangère. La question de savoir quelles sont les représentations que l'enseignant a de la langue qu'il enseigne, quelles sont les représentations que les apprenants ont de la langue enseignée, quelles sont les représentations que les parents des apprenants ont des langues enseignées, et en fonction desquelles ils vont choisir, par exemple, de faire étudier telle ou telle langue, ben oui, c'est des questions fondamentales. Et ce que je veux dire, c'est que, mais pour moi, si vous voulez, ça s'inscrit dans tous les savoirs au sens extrêmement large que nous avons sur les langues. C'est pas parce que, par exemple, c'est pas parce qu'on est un linguiste ou un scientifique qu'on n'est pas affecté par la question des représentations des langues. Quand on interviewe des linguistes, on s'aperçoit qu'un certain nombre d'entre eux, donnent sur les langues les mêmes types de jugements que certains locuteurs effectivement spontanés. Et qu'ils peuvent aussi dire, par exemple même, que telle langue, je sais pas moi, est plus belle qu'une autre, ou plus facile à apprendre qu'une autre, ou plus logique qu'une autre, hein. Et je sais qu'en France, on est bien placé pour ça, parce qu'il y a une immense histoire en France des représentations du français, hein, telles qu'elles s'expriment dans les éléments comme l'universalité de la langue française, le génie de la langue française, etc. Ce qui fait partie de l'étude de la langue française. Car ce que je veux dire, c'est qu'il est très très difficile, même si on est tenté, bien sûr, de séparer de manière toujours très stricte justement les connaissances scientifiques sur les langues et ce qu'on pourrait appeler les représentations ou les idéologies linguistiques. Et en particulier sur le terrain de l'enseignement, eh bien, c'est toutes ces sources de savoir, si je puis dire, hein, aussi bien spontanées que savantes, eh bien, s'entrechoquent. Dans la tête des enseignants et s'entrechoque effectivement dans la tête des apprenants. Voilà pourquoi je crois que cette question très légitime et très intéressante des relations entre la linguistique, au sens large, les sciences du langage et la didactique des langues, ne peut pas se poser in abstracto, dans l'abstrait. Elle doit se poser eu égard à ces ensembles contextuels que sont les cultures éducatives et linguistiques dans lesquelles sont immergés les processus d'enseignement et d'apprentissage des langues. Naturellement, ça fait, disons, un espace vaste et qui n'est pas simple à conceptualiser. Mais je pense que il est important de se le représenter ainsi. Je dirais d'ailleurs en conclusion que en se représentant les choses d'une manière large, on n'accorde pas moins d'importance aux sciences du langage. Les sciences du langage restent un paramètre constitutif de la didactique des langues, mais il est important de penser qu'en didactique des langues, on doit s'ouvrir nécessairement à d'autres paramètres. Je pense, c'est pour cela aussi que, au fond, on voit de plus en plus accolé à l'expression didactique des langues le terme culture. Didactique des langues et des cultures. C'est le cas, par exemple, dans mon université à Paris 3, où notre doctorat s'appelle ainsi, doctorat de didactique des langues et des cultures. Et alors, je vois là-dedans, si vous voulez, pas simplement le fait que nous ajoutions un volet culturel à l'étude linguistique. Non, je vois que, en parlant de didactique des langues et des cultures, l'autre lecture qu'il faut faire, me semble-t-il, c'est celle que je prenais précédemment, c'est-à-dire, dans la didactique des langues, hein, les cultures linguistiques et éducatives sont évidemment très importantes. Et, en particulier, cette relation, si vous voulez, langue-culture, qui est évidemment une relation essentielle pour la didactique des langues, moi je dirais que c'est une question toujours importante pour les sciences du langage en tant que telles. Si les sciences du langage s'occupent du langage, eh bien, elles doivent s'occuper par définition de la relation entre les langues et les cultures. Naturellement, en disant ça, c'est une vue large, bien sûr, que j'ai des sciences du langage, avec un contact, bien sûr, avec l'anthropologie, mais un linguiste qui travaille sur la langue, à partir du moment où il travaille sur la relation entre les formes et les sens, ne peut pas ne pas être concerné par la relation de la langue à la culture. Et si, effectivement, nous avons cette ouverture-là de la part des sciences du langage, alors, évidemment, la didactique des langues ne peut qu'être satisfaite du type de dialogue qu'elle pourra continuer à mener avec les sciences du langage. Voilà, je vous remercie.
Merci infiniment. Je crois que dans les 10 minutes qui nous restent, on va donner la parole aux personnes qui sont présentes et qui souhaitent poser une question à M. Schiss suite à ce très bel exposé, très belle conférence. N'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a un micro.
Merci Jean-Louis. Donc j'ai beaucoup apprécié pour conférence sur notamment sur le rapport interactif entre la didactique des langues et la linguistique. J'aimerais te poser une question sur le plan d'ordre historique. Si j'ai bien compris, on a bien saisi le rapport assez étroit entre la linguistique et la didactique des langues, mais sur le plan historique, est-ce que c'est l'intérêt de la part des linguistes sont nés justement au moment où la linguistique est née? C'est-à-dire, tu as édité dernièrement un ouvrage de Bailly sur la crise du français, et l'enseignement des langues maternelles, et avant, il y avait quand même un travail de Bruno, qui a quand même s'inquiète beaucoup sur l'enseignement des langues maternelles. Alors, est-ce que c'est au moins ces deux linguistes se sont intéressés à l'enseignement des langues de langue maternelle française? Est-ce que ça coïncide justement à la naissance de linguistique elle-même par rapport à la philologie romaine? Parce que je ne sais pas si au moins au XIXe siècle, philologues romaines sont intéressés à l'enseignement des langues de la même manière que les linguistes comme Bailly et Bruno. Voilà.
Merci. Non, je crois que c'est tout à fait juste ce que tu dis. Moi, j'ai toujours pensé que il y a un lien, évidemment, entre la naissance, enfin disons, de la linguistique, enfin moderne, et effectivement un intérêt renouvelé pour l'enseignement des langues. Parce que évidemment, il y a deux temporalités. il est évident, ça je l'ai dit, que moi je suis absolument convaincu que depuis la plus haute antiquité, les linguistes sont intéressés. Alors, ils ne s'appelaient pas linguistes, les grammairiens sont intéressés par le problème de l'enseignement des langues. Mais c'est vrai que le 19e siècle, en particulier la philologie et la grammaire historique et comparée, s'occupent très peu des problèmes d'enseignement des langues. Ça c'est absolument sûr. Et que pour toute une série de raisons qui seraient effectivement à analyser, il y a une conjoncture, hein, dans la deuxième moitié du 19e siècle, en particulier en France, mais aussi en Suisse, plus tard, où on voit ressurgir cet intérêt. C'est-à-dire que les linguistes interviennent dans les débats sur l'enseignement des langues. Ils interviennent sur l'enseignement de la langue maternelle, c'est juste, mais ils interviennent sur l'enseignement de la langue étrangère. Ils interviennent sur les débats sur la réforme de l'orthographe. Il y a effectivement beaucoup de terrains où les linguistes se disent, bien oui, évidemment, l'enseignement des langues n'est pas seulement l'affaire des pédagogues ou des méthodologues, elle est aussi une affaire théorique sur laquelle on a des choses à dire. Hein. Je crois que c'est un revival de quelque chose qui existait effectivement, qui existait depuis longtemps. Et c'est important de le dire parce que il faudrait pas que cette tradition se perde. Il faudrait pas que soit les didacticiens des langues se détachent des théories linguistiques, soit que les linguistes pensent qu'ils n'auraient rien à apporter à l'enseignement des langues. Mais disons que jusqu'à ces dernières années, ce lien est resté tout de même fort. Et puis un certain nombre d'entre nous sommes un peu les produits de ce lien entre la linguistique et l'enseignement des langues. Et la perspective historique est très importante, je suis tout à fait d'accord pour comprendre ces éléments.
D'autres interventions ?
Si vous voulez me dire des choses sur l'enseignement du français aujourd'hui, vous pouvez là. Ce que j'ai dit, parce que c'est quand même le congrès de didactique du français, donc je ne sais pas si sur certains points.
Oui, lorsqu'une nouvelle méthode sort, on nous explique toujours le bienfait de cette méthode et pourquoi elle est supérieure aux autres. Et moi, j'ai commencé à enseigner le français avant que De Vive Voix sorte, et mes collègues m'ont dit « Mais tu n'utilises pas De Vive Voix, mais tu es un taré, parce que c'est une méthode qui est tellement géniale et qui va tellement révolutionner l'enseignement des langues que vraiment ne pas l'utiliser, ça montre que tu es nul. » Et j'ai utilisé cette méthode quelques années, je me suis aperçu que la méthode a complètement disparu sans laisser de traces, et je n'ai jamais vu un travail sérieux d'évaluation de cette méthode. Alors, est-ce que ça continue, ce genre de... C'est pour ça que je suis d'accord avec vous quand vous dites science. Lorsqu'on ne peut pas évaluer un produit que l'on fait, on ne peut pas appeler ça une science, parce que normalement, on devrait pouvoir évaluer en disant, bon, on fait ça, ça va donner ça, et si ça ne donne pas ce qu'on a prévu, eh bien, on s'est trompé. Alors, dans le cas de Vivois en particulier, est-ce qu'on sait pourquoi ça a disparu sans laisser de traces?
Mais parce que tout disparaît sans laisser de traces. Je dirais que le propre, effectivement, de ces changements méthodologiques, c'est que, ils ont tendance à balayer les précédents. Mais moi, je crois d'abord qu'il faut faire une distinction entre les produits éditoriaux et la réalité empirique des pratiques de classe. C'est-à-dire que... il y a souvent une très grande distorsion entre les deux. Pourquoi ? Parce que moi, mes étudiants, ils disent ça. Par exemple, certains d'entre eux disent « Je vais travailler sur telle méthode, je vais travailler sur Tempo, je vais travailler sur Campus, je vais travailler sur... » on remonte du voix sur 2000 voix, etc. Et puis il me dit, je vais analyser la méthode avec des grilles, etc. Je dis, mais très bien, on peut faire ça. C'est une analyse de discours, etc. Mais ça ne dit rien de la manière dont les profs s'en servent, de ce qu'ils font concrètement à l'intérieur des classes. Et ça nous manque dramatiquement, je dirais que faire une bonne évaluation d'une méthode, ce serait évidemment pas seulement avoir une analyse des contenus de cette méthode, analyse de discours, analyse linguistique, mais savoir, pouvoir juger du degré d'efficacité qu'elle aurait pu avoir par rapport à ses objectifs dans tel ou tel contexte. Et ça, c'est drôlement difficile à faire, hein, parce qu'on pourrait s'apercevoir que, pour des raisons tenant aux cultures éducatives et linguistiques dont je viens de parler, elle a pu être intéressante dans tel contexte, elle a pu au contraire ne rien donner dans un autre, etc. Moi, je suis tout à fait d'accord avec votre souhait, hein, d'évaluation, mais c'est vraiment difficile à faire. Bon, et puis, moi, je me montre toujours très prudent. Jamais je vais dire, c'est pas du tout mon job, il faut aller, acheter telle ou telle méthode, etc. Non, mais c'est vrai que ça peut donner une impression, des choses qui passent, qui sont effacées, comme si on peut pas avoir d'éléments cumulatifs, quoi, en réalité. C'est pourquoi il faut plus s'intéresser, je dirais, aux méthodologies, hein, telles qu'elles ont pu fonctionner un peu sur le long terme, etc., qu'à telle ou telle méthode particulière. Parce qu'évidemment, les éditeurs, je veux dire, eux, ils font du commerce. C'est normal. À certains aspects, on peut pas le leur reprocher. Et parfois, ils font du commerce avec de très bons produits. Parfois, ils font du commerce avec des produits qui sont un peu moins bons. Mais vous voyez, moi, j'ai essayé surtout de me dire par rapport à ce que font concrètement les profs dans leur classe, etc. Et comment ils essaient de tenir tous les bouts de cette chaîne, quoi, hein, de faire du communicatif tout en renonçant pas à la grammaire, de savoir qu'il faut une compétence orale et en même temps on ne veut pas renoncer à la production écrite et à la lecture, etc. C'est des questions, hein, qui se posent et qui sont au fond vraiment les questions intéressantes, hein, au-delà de cette écume, hein, d'une méthode qui vient, qui emporte l'autre, etc. C'est un problème presque inévitable, quoi. Pour ça, moi, je donne souvent, par exemple, à mes étudiants, non pas comme travail, non pas le fait d'analyser une méthode, particulièrement ce qu'on appelle méthode, c'est-à-dire un manuel, quoi, proprement dit, mais par exemple de dire, prenez 2-3 manuels en usage, et puis essayez de voir qu'ont en commun ces manuels, est-ce qu'ils ont des principes méthodologiques communs, ou au contraire complètement différents, etc. Pour moi, c'est assez formateur, quoi, comme manière de faire, parce qu'il y a un travail de comparaison, etc. Bon, c'est des idées, mais je partage l'esprit de votre question sur ces raz-de-marée, là, des choses qui...
Oui, mais c'est un peu méchant pour de vive voix, quand même, parce que c'était quand même une période expérimentale.
Oui, mais je veux dire...
C'est le crédit, c'est vrai que quelque part... De vive voix, je pense qu'il ne faut pas le voir comme une méthode, finalement.
Je pense que cette méthode de vive voix, effectivement, il faut la voir dans la genèse expérimentale de ces années-là, c'est-à-dire les années 70. C'est vrai que VIF, de vive voix, et après l'approche communicative avec ces printemps, etc., tout ça, ça s'efface, mais en fait, c'est cumulatif sur le plan expérimental. Donc c'est vrai que sur le plan du terrain, c'est extrêmement frustrant, parce qu'effectivement, on a laissé les gens comme ça, sans vraiment les former sur ces questions-là. Et du coup, c'est vrai que ça laisse l'impression d'une histoire un peu curieuse sur le plan didactique. Mais on voit aussi émerger, là, à mon avis, c'est pour ça que c'est un peu difficile ce que tu disais tout à l'heure, finalement. Il n'y a pas que la linguistique et la didactique, il y a aussi la didactique avec ses profs sur le terrain. Et c'est vrai que là, on voit très bien, nettement, avec les manuels expérimentaux comme ceux-là et les profs de l'autre, comment on a laissé, en tout cas dans ces années-là, une grande partie des profs sans outils réels. Donc je crois que il faut l'avoir comme une méthode historique, finalement, je pense, ce qu'elle est.
Oui, non, mais c'est vrai, moi d'ailleurs, je suis moins le problème effectivement que de vive voix, que de de l'actualité plutôt de ces 10 dernières années, où là le déferlement effectivement des méthodes a été tout à fait considérable, et donc une usure extrêmement rapide au fond. Hein. Les profs n'ont pas le temps effectivement de s'intéresser à telle ou telle méthode, il y en a une autre qui arrive, etc. Bon, mais c'est le business. C'est vrai.
Tatiana, je voudrais vous poser une question sur le problème de la représentation dont vous avez parlé, parce que vous avez parlé de la distinction entre la connaissance scientifique et les représentations. Et j'ai été il y a quelques jours à Taipei pour le congrès régional de la IPF. Et justement, alors, il y avait beaucoup des interventions sur les représentations. Et il y avait une intervenante taïwanaise qui a dit « Il faut casser l'image de la France, pour la représentation de la France. » Alors j'ai l'impression que beaucoup d'enseignants français étaient choqués. Enfin, il y avait une réaction un peu vivace, si vous voulez. Alors, en effet, nous, puisque on est un peu agacé de toutes ces images stéréotypes qu'on voit à la télévision, etc., sur la France, alors nous disons qu'il faut carrément. Moi, je ne dirais pas casser, quand même. Il faut critiquer les représentations stéréotypes. Mais il me semble qu'il y a aussi un problème, justement, de la distinction entre la connaissance et les représentations. Parce que, est-ce que ce sont deux choses différentes, je veux dire, de nature différente, ou bien est-ce que c'est la même chose? Parce que, enfin, en cassant une image, qu'est-ce qu'on va donner? Si on donne une autre image, ça sera toujours la même. Une image plus ou moins infidèle. Vous voyez que il y a maintenant, nous sommes dans un stade nous devrions donner avoir une conscience plus approfondie, il me semble, parce que on parle beaucoup de l'essentialisme, mais alors quelle est la connaissance qui échappe à l'essentialisme, par exemple. Et je voudrais écouter quelques mots là-dessus de M. Sisse. Merci.
Merci beaucoup pour votre question. C'est difficile. Moi, je pense que sur ces problèmes, par exemple, des représentations. Alors moi, je ne me suis pas tellement intéressé, si vous voulez, aux représentations de la France. Je me suis intéressé aux représentations des langues, et en particulier aux représentations du français comme langue. Et ce que je vois là, effectivement, c'est que la limite entre, disons, le scientifique et d'un autre côté l'idéologique ou les représentations est très fragile. Et il est intéressant de voir historiquement comment on passe effectivement de l'un à l'autre. Il est par exemple très frappant de voir que l'idée que le français est la langue de la raison, que le français est la langue la plus logique parmi les langues, est une idée au fond qui a pris pour appui des éléments qui étaient de nature linguistique, pensait-on, scientifique. On s'est appuyé sur le fait que le français était censé avoir ce qu'on appelait au XVIe, au XVIIe siècle l'ordre direct, la construction dite sujet-verbe-objet, qui était admise par les grammairiens effectivement de l'époque comme une connaissance réellement scientifique, et que sur cette base, on a construit effectivement une idéologie de la logique de la langue qui naturellement peut paraître absurde si on y réfléchit, parce que une langue n'est pas du point de vue intellectuel plus logique qu'une autre. Je veux dire, elle a sa propre logique, je veux dire, son mode d'être, comme disait Saussure, hein, son arbitraire, au fond, je veux dire, qui fait qu'elle est la langue calée et pas une autre. Mais je prends cet exemple pour dire à quel point il peut y avoir un passage, souvent, entre des argumentations qui relèveraient du débat scientifique, des grammairiens, etc., et les représentations qui peuvent se construire à partir de là. Et je crois que même l'idéologie du génie de la langue française peut être vue soit comme une représentation comme ça un petit peu bizarre ou échevelée, soit comme une manière, effectivement, c'était souvent le cas déjà dès le XVIe siècle, de penser la spécificité du français par rapport à d'autres langues et en particulier par rapport au latin. L'histoire du génie, de l'ingenium, de la spécificité propre au français, c'était d'abord une manière de dire le français a sa personnalité propre de langue, ce n'est pas le latin, ce n'est pas non plus l'italien, il doit effectivement se distinguer. Mais se distinguer, ça voulait dire il a un génie. Génie n'avait pas à ce moment-là, je veux dire, le sens de génial que nous connaissons aujourd'hui. Ça voulait dire ça a son esprit propre, son mode d'être à soi. Et donc on voit bien que ça, c'était un débat que les grammairiens pouvaient avoir entre eux. Ensuite, ce débat quitte les grammairiens pour aller effectivement chez les politiques, chez les idéologues, hein, qui pourront, par exemple, avec le thème du génie de la langue française, hein, faire, par exemple, de l'expansion coloniale. Pourquoi pas, hein. Donc c'est une limite, effectivement, très, très, très fragile, moi, qui m'intéresse beaucoup dans mes propres recherches, pourquoi je vous remercie beaucoup pour cette question, ça me préoccupe beaucoup, ce thème.
Plus d'intervention, il paraît que c'est l'heure. Non, encore une petite, peut-être toute petite, si jamais quelqu'un veut prendre la parole. Très rapidement.
Très rapidement, oui. Vous parliez de la difficulté de la didactisation de certains travaux, notamment dans les manuels qui n'est jamais pris en compte, ça c'est certain, je pense qu'on remarque tous. De quoi ça vient? Est-ce que c'est les concepteurs de manuels eux-mêmes ou finalement les utilisateurs? Est-ce qu'on sait cela? Est-ce qu'il y a...
Mais je crois que... C'est-à-dire que ces pauvres auteurs de manuels, moi je ne veux pas les accabler, parce que moi-même, il m'est arrivé de faire des grammaires, etc. Donc c'est un métier très difficile. Je veux dire, d'être auteur de manuels, on prend des risques. Je veux dire, c'est difficile. Non, moi je crois que ce sont, si vous voulez, des difficultés intrinsèques. C'est-à-dire que c'est un problème ardu. Les didacticiens sont faits pour essayer de rendre les éléments transposables. C'est drôlement difficile, à partir d'une théorie d'un linguiste, de fabriquer de l'enseignable. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très difficile. Qu'est-ce qui là-dedans est susceptible d'être transmis à des élèves qui ont telle et telle caractéristique? Je crois que c'est un travail scientifique au fond, hein, à temps plein. Il me semble que c'est le rôle des didacticiens. Les concepteurs de manuels peuvent plus ou moins effectivement réussir, mais ils sont devant une difficulté objective. D'ailleurs, c'est la même difficulté que celle que nous avons dans la formation des enseignants. Parce que qu'est-ce qui se passe à la formation des enseignants? Effectivement, on doit trouver des modes de transmission d'un certain nombre de théories. Et tous les formateurs d'enseignants savent que c'est drôlement difficile, qu'on ne peut pas débarquer devant des gens qui vont enseigner, par exemple, une langue et puis leur dire « je vais vous expliquer telle théorie, la grammaire générative de Chomsky, etc. » Parce qu'après, les enseignants disent mais ça et nous, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on va le transformer en enseignable? En quoi ça va pouvoir influencer nos propres pratiques de classe, etc. C'est ça, me semble-t-il, cette transformation en enseignable, ça c'est le job des didacticiens. Si la didactique a une raison d'exister, c'est celle-là. C'était une raison d'ailleurs qui existe dans la tradition depuis toujours. Au XVIe siècle, le fondateur de la didactique, Comenius, vraiment très très grand savant, humaniste, même de la même époque, Erasme, etc., disait ça. Voilà, voilà, la didactique, c'est pour essayer de savoir, au fond, qu'est-ce qui est digne d'être transmis et comment on fait pour le transmettre. Qui me semble effectivement des bonnes questions. C'est pour ça que moi, j'aime bien dire que je fais de la didactique.
Bien. On va s'arrêter maintenant, s'il vous plaît. Nous pouvons continuer le dialogue avec M. Schiss demain à Waseda à 10h et lundi à 19h à l'Institut. Et je vous remercie, enfin nous vous remercions encore pour cette intervention.
Merci beaucoup.